CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30.
Samedi 12 mars de 16h30 à 18h30, la salle de conférence des Récollets accueillera une conférence pas banale et qui s'intitule « Poussière d'étoiles, du Big Bang à la Terre, la formidable épopée de la matière ». C'est en partenariat avec les amis du vieux Caussade et de son pays. C'est organisé par l'Université populaire de Caussade, dont je reçois la présidente Monique Desjean-Servière. Bonjour.
Bonjour.
Alors, après les rhumatismes, l'arthrose, le traité de commerce transatlantique, les banques systémiques, là, est-ce qu'on revient en arrière ou est-ce qu'on va au cœur de l'essentiel avec le conférencier invité, Guy Molénat, qui est ingénieur et docteur en physique, qu'on a au bout de cette magique Internet. À l'heure actuelle, il est dans la banlieue de Barcelone.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et alors, poussière d'étoiles du Big Bang à la Terre, vous croyez qu'en 2 heures, les gens vont repartir en sachant?
Ah ben c'est le défi. Hein. Et d'ailleurs, je finirai la conférence par un petit résumé. Si j'ai l'occasion de revenir un jour à Caussade, je ferai même une interrogation écrite et je suis sûr que les notes seront très bonnes.
Alors là, on retrouve le maître de conférence de l'université Paul Sabatier, qui est à l'aise avec son sujet et avec des étudiants. Mais là, c'est pas pareil, c'est du grand public.
Ah mais c'est encore plus difficile parce qu'il faut essayer d'employer le moins de jargon possible tout en essayant de trouver des analogies, des images, tout en étant le plus près, en étant sérieux et ne pas raconter n'importe quoi. Non, le défi est encore plus intéressant à relever et je suis ravi de venir ce samedi-là à la rencontre des gens de l'Université populaire de Caussade.
Alors, vous allez nous dire peut-être ce qu'il y aura dans cette conférence. Moi, je suis impatient de le savoir. Mais quand même avant, Monique Desjean-Servière, comment vous choisissez vos sujets? C'est parce que vous avez un réseau de sachants et vous vous dites « Ah ben, on va toucher, je ne sais pas moi, au commerce, à la médecine, à la santé et à l'origine de tout ».
Alors, notre projet, lorsqu'on a augmenté le nombre de conférences, était de traiter de sujets souvent d'actualité. C'était le cas pour les banques systémiques, c'était le cas pour TAFTA, de traiter également de choses qui interrogent les Caussadais. L'année passée, nous avons parlé de l'évolution du Quercy au XVIIIe siècle avec la place de l'esclavage. Cette année, nous allons parler de 14-18, mais non pas vu depuis les champs de bataille, mais depuis la manière dont on vivait sur ce Quercy à l'époque. Et la plupart du temps, effectivement, on puise dans les réseaux que l'on peut activer en ayant une idée de conférence, et c'est le cas pour M. Molénat, puisqu'il nous a été proposé par Christophe Sahuc, des Amis du Vieux Caussade, président des Amis du Vieux Caussade. Alors, retour en arrière, en effet, par rapport au thème précédemment évoqué, mais aussi sujet essentiel, puisque c'est une interrogation existentielle qui se pose.
Alors, qui sommes-nous, Maître Molénat?
Alors, d'un point de vue de la physique, on dira que l'être humain est fait de matière. Après, est-ce qu'il faut y rajouter une âme ou pas? Ça, c'est une question métaphysique et la physique n'a aucun élément de réponse à apporter. Mais on est au moins constitué de matière. Et c'est vrai que ce qui est assez passionnant quand on commence à s'interroger sur d'où vient cette matière, bon, nous sommes faits d'atomes, hein, et ces atomes, d'où viennent-ils? Ben, on se rend compte que ces atomes, ils ont été fabriqués au cœur d'étoiles qui, à la fin de leur vie, ont explosé. Et en explosant, elles ont ensemencé l'univers de ces atomes qu'elles ont fabriqués tout au long de leur vie. Et ben, nous, êtres humains, terriens, ben, nous sommes apparus dans un recoin de l'univers, un peu de ces atomes qui se sont fabriqués dans des soleils disparus. Certains atomes, dans un coin de l'univers, se sont agglomérés et ont formé notre système solaire. On formait cette Terre et on fait les molécules dont nous sommes faits. Donc, le titre, je l'aime bien parce qu'il n'est pas de moi, Poussière d'étoiles. Je l'aime bien parce qu'il est à la fois extrêmement exact d'un point de vue scientifique et en même temps chargé de poésie. Nous sommes des poussières d'étoiles.
Alors moi, la question qui me vient tout de suite quand même, quand vous expliquez ça, j'ai tendance à voir, vous voyez, un schéma linéaire avec un instant T et puis des évolutions et puis l'arrivée aujourd'hui. Or, aujourd'hui, c'est pas fini, on n'est que dans un moment. Et donc, quand vous parlez d'étoiles éteintes, ça veut dire que d'emblée, il y a la question du temps.
Absolument. Cette histoire a commencé, le scénario le plus admis par la communauté scientifique, c'est le scénario du Big Bang, à savoir qu'il y a 13,7 milliards d'années, donc c'est un bon paquet d'années, on en parlera de ça, il y aurait eu un moment initial à partir duquel l'univers que l'on connaît a commencé donc à s'étendre et à se refroidir. Et en s'étendant, à se refroidir, des grumeaux de matière sont apparus. Ces grumeaux sont les galaxies, et puis à l'intérieur des galaxies, de nouveaux grumeaux, les étoiles et leurs planètes. Et cette histoire, donc, comme vous le disiez, a commencé il y a bien longtemps. Donc il va falloir, dans cette conférence, donner une idée de cette ligne du temps. Et on va parler donc, d'étoiles qui sont nées, qui sont mortes. On parlera de notre étoile à nous, notre Soleil. Lui, il est bien vivant. Donc en étant bien vivant, au moment où on parle, si on regarde par la fenêtre et si on l'a dans le champ de vision, ben on a en face de nous une étoile qui est en train de fabriquer des atomes. Alors pour le moment, ces atomes ils restent à l'intérieur du Soleil. Et puis, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil il aura épuisé son carburant. Donc, il finira par disparaître, par exploser. Et c'est à ce moment-là qu'il contribuera à ensemencer l'univers de ses propres atomes et que, peut-être, dans quelques milliards d'années supplémentaires, ici, dans un autre coin de l'univers, peut-être qu'apparaîtra un nouveau système planétaire avec peut-être de nouveaux êtres vivants qui, à leur tour, se poseront peut-être la question de leur origine.
Et vous pensez qu'il y aura un astronome en train de nous observer parce que moi, cette question du temps, ça me perturbe. Dans vos métiers, on observe des planètes, des constellations, des étoiles, dont vous pouvez dire qu'au moment où vous les observez, n'existent plus.
Ah, pour certaines, c'est effectivement le cas. Par exemple, prenons le Soleil. La lumière qui nous arrive sur Terre et qui est vitale, cette énergie que produit le Soleil et qui nous arrive sous forme de la lumière, elle met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Donc si quelqu'un avait un interrupteur pour éteindre le Soleil, en éteignant le Soleil, on ne s'en rendrait pas compte tout de suite, on ne s'en rendrait compte que 8 minutes plus tard. Donc il se passerait un moment où on croirait que le Soleil est encore là alors qu'il n'y serait plus. Et c'est vrai, parce que vous avez tout à fait raison, il y a des quantités d'étoiles, de galaxies que l'on peut détecter dans le ciel et qui, au moment où on les observe, effectivement, n'existent plus. Par contre, ce qui continue à nous arriver dans l'œil ou dans le télescope, c'est la lumière qui n'a pas encore fini d'arriver.
Ça veut dire que quand on éteint la lumière, il faut dire attention, plus que 8 minutes, il va faire noir.
Pour le Soleil, c'est 8 minutes. Mais alors, nous, comme la lumière se déplace à cette vitesse colossale qui est de 300 000 km, non pas par heure, mais par seconde, on imagine bien que quand on éteint la lumière chez nous, y a ce phénomène de décalage, mais la lumière qui quitte l'ampoule lorsqu'on l'éteint, à la vitesse de 300 000 km par seconde, on a l'impression qu'elle nous arrive dans l'œil instantanément, mais il y a un petit décalage imperceptible.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30.
On est toujours en compagnie de Guy Molena, qui est invité comme conférencier à la conférence du samedi 12 mars à 16h30 au Récollet, organisée par l'Université populaire de Caussade en partenariat avec les Amis du Vieux Caussade et de son pays. Guy Molena, qu'on a au bout du fil. Bon, moi, je ne sais pas, vous avez des questions, vous, Monique Jean-Servais, parce que moi, j'en ai plein. Hein.
Oui, moi, j'en ai une qui m'interroge depuis très longtemps. On parle d'un instant, le Big Bang, où il y a eu, si j'ai bien compris, une extension. Il y a un réchauffement, enfin quelque chose de très chaud qui a fait que s'est créé quelque chose. Mais avant Absolument. Cet instant, avant cet état, est-ce qu'on est capable d'imaginer ou d'avoir des hypothèses de ce qui existait ?
Alors, avant l'existence, qu'y avait-il ? C'est ça que vous voulez dire ?
Voilà.
Débrouillez-vous, professeur.
Oui. Non, c'est la question, la question difficile. Avant le début, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a des physiciens qui proposent comme hypothèse, mais là on est à la limite, on n'est plus vraiment dans la physique, on est plutôt dans la métaphysique, mais qui proposent comme hypothèse, mais qui est raisonnable, qui consiste à dire il n'y a pas d'avant parce qu'il n'y avait pas de temps. Et que cet instant initial d'il y a 13,7 milliards d'années, c'est aussi l'instant où commence à s'enclencher l'horloge du temps. Et donc, s'il n'y avait pas de temps avant, il n'y a pas d'avant. Donc, c'est une possibilité considérée que le temps a commencé en même temps que l'extension de l'univers. Mais aucune observation physique, aucune observation faite par quelques satellites ou microscopes que ce soit ne peut confirmer cette supposition. La question reste entière et je ne suis pas sûr que la physique puisse y apporter des réponses. C'est d'abord une science expérimentale, la physique. La réalité, on essaie d'observer la réalité telle qu'elle est et le Big Bang, le début du Big Bang, c'est une hypothèse. Et pour le moment, on ne sait même pas exactement, d'un point de vue physique, on ne sait même pas dans le détail ce qui s'est passé au tout début. Parce qu'il faisait tellement chaud qu'on n'a aucune équation, aucun modèle pour l'expliquer. C'est d'ailleurs pour ça que, à la frontière franco-suisse, sous la frontière franco-suisse, vous en avez peut-être entendu parler de cet accélérateur gigantesque de particules qui a permis de détecter, par exemple, le boson de Higgs il y a quelques mois ou quelques 2-3 ans. La fonction de cet accélérateur gigantesque, c'est essayer entre autres choses, de reconstituer les conditions initiales du Big Bang pour essayer d'établir des équations dont on ne dispose pas aujourd'hui pour décrire ce tout début. Donc, votre question, je peux apporter un élément, une hypothèse, mais guère plus.
D'accord.
Alors, justement, moi, ma question, c'était par rapport aux outils d'observation. Là, je suppose qu'avec, je ne sais pas, la numérisation, avec les accélérateurs, des choses comme ça, on est loin du simple télescope. Il y a des outils vraiment performants aujourd'hui qui lèvent des hypothèses ?
Non, mais je crois que le principe du télescope est toujours là, c'est-à-dire capter les ondes qui arrivent du ciel et les interpréter. Alors, on peut capter les ondes qui correspondent à la lumière visible. Ben, c'est ce qu'on fait avec nos yeux en regardant le ciel et les belles nuits d'été. Quand le ciel est dégagé, on voit ces milliards d'étoiles qui constituent la Voie lactée. Et puis avec la lunette de Galilée, en assemblant des morceaux de verre entre eux, on est arrivé à avoir une vision de voir en plus gros ce qu'il y a dans le ciel. Mais je crois qu'on en est toujours là sur le principe de capter les ondes, qu'elles soient visibles ou pas visibles, et les interpréter. Alors les progrès, ils sont dans la sensibilité des capteurs, ils sont dans la possibilité d'envoyer ces détecteurs, ces télescopes, au-dessus de l'atmosphère pour pouvoir avoir des images de meilleure qualité. Les progrès, ils sont dans la possibilité d'envoyer ces détecteurs, ces télescopes, sur des satellites qui vont sortir du système solaire. Mais sur le principe, on en est toujours au même point, c'est-à-dire capter ce qui nous arrive du ciel, capter les ondes et les analyser.
Guy Molenat, le conférencier invité samedi 12 mars au Récollet, j'ai encore une question, moi. Pourquoi vous êtes à Barcelone ? Il y a moins de nuages que dans l'Aveyron ?
Moins de nuages en général, oui, je crois.
Pour l'observation ?
Non, ce n'est pas la raison. Oui, non, en fait, après quelques années passées à Toulouse comme enseignant-chercheur à l'université Paul Sabatier et dans un laboratoire du CNRS, j'avais un petit peu envie de vivre une autre expérience professionnelle. Alors, dans un premier temps, en 2007, j'ai travaillé pour l'ambassade de France en Espagne où j'avais le poste d'attaché scientifique, c'est-à-dire je suivais de près l'actualité scientifique et technologique espagnole pour en informer l'ambassade et le gouvernement. Et puis à la fin de mon contrat, j'ai eu envie de rester et de tenter une autre aventure professionnelle. Donc là, je me suis mis en disponibilité de l'université et je suis actuellement auto-entrepreneur et j'aide en particulier un parc d'entreprises à se développer et je l'aide à le promouvoir. Un parc d'entreprise qui, pour moi, est intéressant parce que c'est un parc construit autour d'un synchrotron. Alors, on parlait de l'infiniment grand, essayer de trouver, reconstituer l'histoire de l'univers. Avec un synchrotron, c'est l'autre bout de la chaîne, on s'intéresse à l'infiniment petit. C'est une sorte de microscope géant qui nécessite pas moins de 200 personnes pour le faire fonctionner, qui permet de voir les atomes. Et donc, c'est autour de cet équipement scientifique assez singulier qu'il y a la volonté du gouvernement régional d'attirer des entreprises de haute technologie. Je travaille pour ce projet. C'est une expérience tout à fait différente, mais il y a toujours un lien avec la technologie, avec l'innovation à travers la science. Donc, je suis très bien à Barcelone, en effet.
Monique Desjean-Servier a une question.
Oui, j'imagine que vous aborderez la question de l'ailleurs, c'est-à-dire que là, on a notre système solaire, on a la vie actuelle dans le système solaire que l'on connaît. Et ailleurs, que se passe-t-il ? Y a-t-il des formes de vie ? Hypothèses ? Est-ce qu'on n'a plus que des hypothèses ou pas ?
Là, je crois que là, la plupart des scientifiques du domaine, au jour d'aujourd'hui, 2016, sont, pour la plupart, j'imagine, absolument convaincus qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait de la vie que sur Terre. Pourquoi ? Parce que depuis 1996, où une équipe suisse a découvert pour la première fois une étoile avec une planète autour, les fameuses exoplanètes. Depuis 1996, aujourd'hui, on est à 2000 exoplanètes découvertes. Et statistiques à l'appui, quand on commence à regarder de près quelle est la probabilité qu'il y ait une planète autour d'une étoile, et quand on connaît le nombre faramineux du nombre d'étoiles dans l'univers, il est pratique pour moi, il est certain que quelque part, il y a autour d'une étoile une planète où la vie sous une forme semblable ou sous une forme différente, la vie a pu se développer.
Ce qui est peu probable, c'est qu'on arrive à trouver une humanité aussi folle que la nôtre.
On aura du mal à le prouver, on aura du mal à savoir de près comment ces êtres vivants s'organisent, parce qu'un des gros défis des prochaines années pour cette branche-là de l'astrophysique, ça va être de trouver des signaux émis par ces planètes qui pourraient nous renseigner sur ce qui s'y passe. Parce qu'effectivement, on n'entendra pas les bruits de klaxons ou les radios, les émissions radio de ces planètes-là, parce qu'elles sont forcément beaucoup trop loin pour pouvoir capter le signal. En tous les cas, c'est la situation d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on a du mal à savoir ce qui s'y passe sur ces planètes.
La formidable épopée de la matière que vous allez raconter en conférence à 16h30 le samedi 12 mars à la salle des Récollets à Caussade, organisée par l'Université populaire de Caussade. La formidable épopée de la matière, quelles sont les questions que vous posent les gens, parce que vous n'y aurez pas répondu pendant votre conférence? Parce que je suppose qu'on vous pose encore des questions, on ne vous lâche pas, non, après une conférence comme ça?
C'est vrai que le domaine de l'astrophysique touche à des questions, vous l'avez évoqué au début, à des questions d'ordre existentialiste. Quelles sont nos origines? On peut analyser nos origines d'un point de vue de l'histoire, la Première Guerre mondiale, le XVIIIe siècle, vous l'évoquiez dans le Quercis. C'est une façon de répondre à cette inquiétude de nos origines. Et l'astrophysique apporte d'autres éléments de réponse à notre présence sur Terre et à la présence de la Terre dans l'univers. Donc voilà les questions. Donc il y a une curiosité d'emblée. Et puis les questions, c'est un petit peu toujours les mêmes, parce qu'on est tous formatés pareil, on a toutes les mêmes inquiétudes. Le Big Bang, que pouvait-il y avoir avant? Que pourra-t-il y avoir plus tard? Est-ce que l'homme est fait, l'homme et la femme sont faits que de matière? Est-ce qu'il y a une transcendance? Et Dieu dans tout ça? Ce sont quelques-unes des questions récurrentes à laquelle, stricto sensu, la physique n'a pas la prétention et n'a pas le droit de répondre finalement.
Dites-moi, entre une génération d'étudiants en physique par exemple et leurs enseignants et la génération suivante, est-ce que les progrès liés aux outils d'observation, à la connaissance qui est exponentielle, font que, je sais pas moi, en un siècle, on a découvert plus de choses qu'en 2000 ans?
Ah, ça c'est sûr que pour ce qui est de l'observation de l'univers, actuellement, il y a grâce aux progrès technologiques, les nanosciences, les nanotechnologies et tout ce qu'il y a autour permettent de développer des nouveaux outils, des nouveaux capteurs, des nouveaux télescopes encore plus sensibles. Et la physique en général, l'astrophysique en particulier, c'est un domaine où actuellement il y a d'énormes progrès. Et c'est sûr que les livres d'école, les livres de collège ou de lycée d'il y a 10 ans sont déjà certainement dépassés, et que les photos qu'il y a dans les livres d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes photos que dans les livres que l'on trouvera dans les livres dans 10 ans plus tard, parce qu'il y a effectivement des progrès dans ce domaine-là, des progrès quotidiens qui renforcent l'hypothèse du scénario du Big Bang.
Bon, il n'y a pas quand même des contre-vérités dans les manuels que j'utilisais moi il y a 50 ans maintenant.
Non, contre-vérité, non. Mais enfin, ce qui est caractéristique des sciences exactes, la physique en particulier, c'est qu'elles se remettent en cause en permanence. C'est-à-dire, il y a une observation, on essaie d'interpréter, et on va dire, oui, donc tout se passe comme si, oui, mais si un nouvel élément d'observation plus tard nous montre un fait contraire à la théorie qu'on avait imaginée, ben le propre d'un physicien sera de dire ben, nos équations du passé, il faut les rayer et il faut en écrire de nouvelles. Donc, dans les livres d'école d'il y a 10, 20 ou 30 ans, il y avait certainement des choses moins précises qu'aujourd'hui, mais aussi certainement des choses qu'on expliquait et qu'on sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça qu'il faut les expliquer.
On aura les bonnes explications samedi 12 mars à 16h30 à la salle de conférence des Récollets, à cette conférence Poussière d'étoiles du Big Bang à la Terre, à la formidable épopée de la matière. Le conférencier, c'est Guy Molénat, qu'on avait au bout du fil. Merci beaucoup, monsieur Guy Molénat, à samedi.
Merci à vous, merci à votre invitation, et je vous donne rendez-vous à samedi, en effet.
Monique Desjardins-Servières, la prochaine conférence, elle est déjà pas dans le bulletin, parce que c'est déjà à partir de la rentrée.
Non, alors, il n'y a pas de conférence comme telle. On a un ensemble d'animations consacrées à la guerre de 14, 14-18, bien entendu, du 5 avril au 15 avril. Le programme est diffusé largement dans les prochains jours. Sachez qu'il ne s'agit pas de parler de bataille, puisque ça a été évoqué dans d'autres cénacles, dans d'autres situations. Nous allons parler plutôt de la vie quotidienne en Quercy, à ce moment-là, à partir d'un fait divers, qui illustre bien un petit peu des choses très particulières et singulières, comme l'attelage d'un éléphant du cirque Pender, qui était à l'époque en quartier d'hiver à la ville-dieu du Temple et qui était utilisé pour labourer, dans la mesure où il n'y avait guère de chevaux qui étaient réquisitionnés. Bon, donc c'est un ensemble d'éléments, je vous invite à vous informer par rapport à ça.
Ça, c'est du 5 au 15 avril, c'est conférence, exposition, atelier d'écriture, projection. Et la prochaine date, c'est cette conférence Guy Molénat, samedi 12 mars à 16h30 à la salle de conférence des Récollets. Monique Jean-Servière, je vous remercie.
Merci.
Le mag du Quercy-Rouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.